Alors, la question qu'on vous a posée autour de l'acrosport, c'est est-ce que vous pouvez présenter un peu votre conception finalement de l'acrosport, qui est particulière, qui est une entrée dans l'activité qui est marquée. Donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu voilà, la conception que vous portez de l'acrosport et si moi, demain, j'ai un cycle d'acrosport à mener avec les élèves, est-ce que tu peux me donner quelques pistes et quelques éléments clés sur lesquels je dois m'accrocher pour proposer une EPS de qualité à mes élèves en permettant une étude de leur transport. La parole est à toi.
La parole est à moi, très bien. Oui, donc, ce que je vous disais à l'instant, c'est que on va quand même se questionner sur la référence culturelle de l'activité, puisqu'on parle de traitement didactique. Ici, notre référence en acrosport, c'est la gymnastique acrobatique. Il faut savoir quand même que la gymnastique acrobatique, au niveau fédéral, est une activité qui est relativement récente. Elle est arrivée en France que dans le milieu des années 80. Et aujourd'hui, c'est une activité qui est très confidentielle. Ça représente à peu près 3000 licenciés en France. D'accord ? Donc, c'est intéressant de le savoir parce que, paradoxalement, c'est une activité, l'acrosport, qui est massivement enseignée en EPS. Et donc, ça pose question quand même, parce que, voilà, il y a ces activités-là, comme le badminton, et par exemple, une référence culturelle qui est quand même, qui est peu véhiculée, des pratiques qui ne sont pas massivement, qui sont pas massives, on va dire, au niveau fédéral, et pourtant en EPS, c'est massivement repris par nos élèves. C'est quand même la quatrième activité présentée au bac par les élèves. Ça représente 30% environ des élèves de terminale en général, hein, c'est sur le rapport de 2016. Très massivement enseigné. Pour nous, ce succès de l'acrosport naît du déclin de la gym. D'accord ? Pourquoi ce déclin de la gym ? Bah d'abord parce qu'on pense que les valeurs qui sont véhiculées par la gym, de valeurs d'effort, de plaisir différé, trouvent quand même peu écho chez nos élèves. Ensuite, c'est une AFSA qui peine à s'adresser à tous les élèves dans les représentations gym égale fille. D'accord ? On a parfois du mal avec les garçons dans ce type d'activité, même si effectivement... Tout le traitement didactique qu'on peut faire autour va permettre de les mettre en activité. Voilà. Mais quand même, symboliquement, gym égale fille. Cette activité aussi pose des problèmes dans la gestion d'hétérogénéité, l'hétérogénéité des niveaux, des morphologies. Et donc, questionne sur les problématiques sécurité. Des questions autour de la compétence de pareur de l'enseignant. Et de la formation de l'élève par heure. Et puis, le dernier aspect qui peut poser problème en gymnastique, c'est toute la gestion matérielle. Pour faire un cycle de gymnastique aux agrès, il faut des barres, une poutre, une table de saut. Nous, on pense que le succès de l'acrosport en EPS, c'est que... Ça peut permettre, ça peut offrir certaines réponses à ces problématiques-là. Alors, à ces problématiques-là, dans la mesure où notre enseignement de l'acrosport ne se résume pas de longtemps de négociations devant des fiches. C'est un peu l'écueil qu'on a pu constater et contre lequel nous, on essaye de lutter. Ici, ce modèle pédagogique là, de la fiche qu'on donne et puis l'élève reproduit, non seulement c'est un modèle pédagogique qui est porteur de risque, il faut savoir que la majorité des accidents en acrosport ont lieu sur le démontage des figures statiques. Parce qu'en fait, on a un dessin, on essaye de reproduire la figure et puis on est en haut et puis comment on descend ? On n'a pas prévu. Et du coup, ça s'écroule. Moi, dans mon expérience... la majorité des figures qui s'écroulent, quand ça arrive, c'est des figures statiques. Ils ne sont pas suffisamment préparés à ça. Le deuxième écueil, je trouve, dans cette, voilà, dans ce modèle pédagogique de l'affiche, c'est que ça donne l'image d'une activité très statique, justement. Alors que l'acrosport, pour nous, est vraiment une activité qui est fondée sur le mouvement permanent des gymnastes. D'accord. Ici, l'acrosport, donc l'enjeu, c'est de faire réaliser des figures statiques et dynamiques et de les présenter sous forme d'enchaînement. Ici, la conception que nous on véhicule et que je vais essayer de vous présenter ce soir, c'est que l'acrosport, c'est une activité gymnique, acrobatique et collective, qui est donc fondée sur le mouvement et qui est porteuse d'une éducation à la sécurité et à la responsabilité de chaque membre du groupe. D'accord. Et pour véhiculer tout ça à mes élèves, dans mes cycles, je commence tout le temps par un enseignement de figure dynamique. Ici, l'enjeu de l'apprentissage de ces figures dynamiques, il est double. D'abord, entrer directement dans une motricité gymnique inhabituelle. Donc on va se renverser, d'accord. On va construire de nouveaux repères. Et aussi de vivre des émotions. Ici, au niveau de la motricité gymnique, on va distinguer le travail des porteurs aide et le travail des voltigeurs. Au niveau des porteurs, l'enjeu, ça va être de construire les postures, les prises et les actions à réaliser pour agir efficacement sur le voltigeur. L'enjeu pour les voltigeurs, ça va être prioritairement, dans mes cycles, de construire la posture renversée, alignée gainée. D'accord ? Qui va être pour nous une posture de référence, même si on va travailler sur des rotations, ainsi de suite. Le deuxième enjeu au niveau de ces figures dynamiques, de cette entrée par des figures dynamiques, ça va être de faire vivre de l'acrobatie aux élèves. Il va falloir dépasser ses appréhensions. Donc, construire des nouveaux repères et vivre des émotions. Les émotions qui sont liées à l'acrobatie, pour nous, cette aventure collective autour de ces émotions-là, c'est la clé de la motivation des élèves. Donc, pour atteindre cet objectif, t'es prêt, tout nickel. Donc, on va choisir des figures dynamiques. Alors, voilà, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, qui n'ont jamais vu. Voilà des exemples de petites figures dynamiques par lesquelles on peut commencer. Alors, c'est juste les deux du fond, mais bon, il y en a plusieurs, en fait. Donc là, l'enjeu, c'est un porteur, des aides, et on génère du mouvement chez le voltigeur. Donc après, dans le choix des figures dynamiques qu'on va enseigner à nos élèves, on va s'orienter sur des figures où il y a du renversement, où il y a de la rotation en fonction de ce qu'on veut travailler avec eux. Donc voilà des exemples de figures dynamiques. Alors, on va montrer la vidéo. Bon, je sais plus où j'en suis là. Donc voilà. Alors, pour ces figures dynamiques, en termes de démarche pédagogique, je commence sur toute la première moitié de mes cycles et sur une grosse moitié, voire trois quarts de mes premières leçons, je vais être dans un enseignement frontal avec mes élèves, à savoir, on démontre, soit avec les élèves, soit à l'aide de vidéos, les figures, et ce qui va être absolument essentiel, ça va être d'être capable en tant qu'enseignant de fournir aux élèves des explications très claires, des actions à réaliser en lien avec la fonction de chaque rôle. D'accord ? Le rôle, c'est porteur, voltigeur, aide, pareur. À chaque rôle correspond une fonction. Le porteur, c'est le rôle prioritaire. Là, quand on regarde des figures, qu'elles soient dynamiques ou statiques, on a tendance à porter notre regard sur le voltigeur. D'accord ? Parce que c'est lui qui est renversé, c'est lui qui est mis en mouvement, c'est lui qui est dans des postures improbable, déséquilibré, tout ce qu'on veut. Or, le rôle prioritaire, c'est le rôle de porteur. Et sa fonction, c'est de décider, c'est d'être à l'initiative de l'action, c'est de contrôler le voltigeur. Et tous les contenus d'enseignement vont être autour de ça, en tout ce qui est posture, action et prise. D'accord ? Le voltigeur, lui, donc c'est celui que l'on met en mouvement, c'est celui qu'on manipule, et donc sa fonction à lui, c'est d'être le plus facilement manipulable pour les porteurs. D'accord ? Et du coup, tous les contenus d'enseignement vont tourner autour du maintien d'une posture tonique et aussi au niveau affectif, d'accepter de se laisser manipuler, de se laisser déséquilibrer, de se laisser renverser par ses porteurs, ce qui n'est pas forcément évident du tout. Et puis les aides par heure, on en reparlera, sont, eux, leur fonction, c'est d'assurer la sécurité. On verra tout à l'heure que dans l'apprentissage des figures, les aides sont absolument déterminantes dans la sécurité, okay, puisque les porteurs et les voltigeurs sont en phase d'apprentissage. Okay, alors vous allez me dire les aides aussi, mais leur rôle est très simplifié, et ils vont avoir des contenus qui vont être assez similaires aux porteurs, en termes de posture, d'action et de prise sur le voltigeur. Et donc ça va être très très important de clarifier ça avec les élèves. D'accord ? C'est la fonction bien précise de chaque rôle qui va déterminer les actions qu'ils ont à réaliser. À chaque figure qu'on va choisir d'enseigner à nos élèves, du coup, vont correspondre des prises, des postures et des actions à réaliser. D'accord ? Et ça, ça va être ce qu'on va enseigner à nos élèves. Et la connaissance de ces actions et de ces postures, c'est la condition première pour que les élèves réussissent les figures et réussissent à les faire en toute sécurité. Ok ? Est-ce que tu peux mettre action ? Ici, pour illustrer ce que je vous dis, sur l'exemple d'une figure, d'une des premières figures dynamiques qu'on peut aborder avec les élèves, voilà un exemple des actions qu'il a réalisées. Donc ici, pour la première action pour le porteur, c'est de plier les jambes pour amener son bassin sous le centre de gravité. Ça, c'est sa première action. La deuxième action qu'il a à faire, c'est de pousser sur ses jambes et d'envoyer ses fesses en arrière pour décoller son voltigeur du sol. La troisième action qu'il a réalisée, c'est de pencher son buste en avant pour amener les mains du voltigeur au sol en maintenant son bassin haut. Et c'est ça qui va générer le renversement. Pour le voltigeur, ses actions. Première action, garder le corps aligné, gainé. Donc serrer les jambes, serrer les fesses, tendre ses jambes, aspirer le nombril, toutes ces actions de gainage. Ici, deuxième action, il va pousser sur ses bras, regarder ses mains quand elles vont toucher le sol. Et la troisième action qu'il aura à réaliser, c'est de rentrer la tête pour pouvoir rouler. D'accord ? Et on finit avec les aides. Contrôler et accompagner le voltigeur en se déplaçant avec lui. On regarde bien. Pour pouvoir contrôler son voltigeur, il faut se déplacer avec lui. Ici, pour chacune des figures qu'on enseigne, il faut que ça se soit très très clair pour les élèves. Parce que c'est ça qui va leur permettre de réussir les figures. Et ces actions-là, les prises qu'ils ont à mettre en œuvre, voilà, ça va être le contenu d'enseignement. Et c'est ça qui va leur permettre, en tant que porteur, d'apprendre les différentes techniques pour pouvoir manipuler, créer du mouvement chez le voltigeur. Que ce soit du renversement, de l'alignement, de la rotation, du redressement de la position ATR, ainsi de suite. Alors, on parle d'éducation à la sécurité. Ici, pour moi, on est essentiellement sur de la sécurité active, d'accord ? Donc, assurée par les élèves eux-mêmes. Je travaille avec très peu de tapis. Alors, voilà, ça n'empêche pas de travailler des petits tapis de réception pour rendre les réceptions plus confortables. Mais la sécurité est assurée par les élèves. C'est aussi pour ça il faut que nous, en tant qu'enseignants, on soit très précis sur les actions qu'on leur demande de réaliser. On ne peut pas être exigeant envers eux si nous, on n'a pas cette exigence-là de savoir exactement les actions qu'ils ont à réaliser. On ne peut pas se contenter d'une connaissance à peu près de ce qui se passe. Il faut que nous, on soit pointillés là-dessus, parce que sinon, on met en danger nos élèves. Parce que s'ils ne réalisent pas correctement, ils vont se faire mal. D'accord ? Pour pouvoir être vraiment dans cette éducation à la sécurité et travailler sur cette problématique-là, dans mon enseignement, la progressivité et la multiplication des rôles va être essentielle. Pour arriver à cette figure-là, je vais vous montrer l'exemple, on va passer par différentes étapes. D'accord ? Ces étapes vont permettre à chaque élève, en fonction de leur rôle, d'apprendre ce qu'ils ont à savoir et à savoir faire, et de former aussi progressivement un pareur. D'accord ? Parce que ça se construit. On ne peut pas dire, va à la parade là. Il ne sait pas ce qu'il a à faire. Donc ça, c'est très important parce que finalement, toutes les compétences, quels que soient les rôles, vont se construire en même temps, dans la même progressivité. Et cette multiplication des rôles, puisqu'en théorie, cette figure que je vous ai montrée, donc ce duo, là, en renversement, c'est un duo. Donc à terme, c'est censé être réalisé à deux. Sauf que dans l'apprentissage, en fait, là, on est quatre. Il y a un porteur qui va être soutenu par deux aides et un voltigeur qui est en fait pris en charge par trois élèves. D'accord ? Cette multiplication des rôles va aussi permettre de travailler sur les difficultés qu'on peut rencontrer en termes d'hétérogénéité, notamment d'hétérogénéité des morphologies. Cette figure-là, il y a trois porteurs pour un élève. Donc, même si en termes de morphologie, il va être plus lourd que son porteur, ils sont trois pour le porter. Donc, on arrive à le renverser. S'il n'est pas tonique, les aides sont là pour éviter qu'il s'écroule, qu'ils doivent le soutenir, ainsi de suite. D'accord ? Cette progressivité, c'est celle-là. Donc, juste un petit exemple pour que vous compreniez ce que j'entends par là. Je peux mettre lecture, ça va se... Donc, ça, c'est la figure qu'on a vue tout à l'heure. Et donc, ils ont à apprendre. Donc là, c'est la fin, ils savent le faire. OK ? Donc, renversement en ATR, roulade avant. La première étape, c'est juste, je renverse en roulade avant, pas en ATR, roulade avant, avec des aides qui vont venir chercher les pieds, qui vont accompagner. OK ? Donc, le porteur n'a eu qu'à le prendre en charge. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le renversement, toujours avec les aides qui montent en ATR. Et cette fois-ci, on va essayer d'aller rechercher cet alignement en ATR avant de rouler. En troisième étape, on va avoir le renversement qui va être en roulade avant, mais avec des pareurs. Et là, regardez, ce ne sont plus des aides, ce sont des pareurs. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas amener le voltigeur en ATR, ils vont aller le récupérer et l'accompagner dans la roulade. Ça, c'était des élèves de 5e. Pour eux, je ne suis pas passée à l'étape sans parade. D'accord ? Ici, évidemment, les élèves, avant de passer à l'étape au-dessus, ils vont devoir être validés. D'abord, validés par eux, on va travailler ses rôles d'observateur pour construire progressivement sa compétence à juger aussi, et ensuite validés par l'enseignant. D'accord ? Et du coup, avec cette progressivité-là, on va avoir des pareurs qui sont d'abord des aides et qui vont progressivement devenir des pareurs. Ils vont apprendre à se positionner, à se déplacer avec eux, à accompagner avec eux, à prendre des bonnes prises, à soutenir. Et petit à petit, quand on va leur demander progressivement de devenir des pareurs, ils savent ce qu'ils ont à faire, ils vont modifier leur placement et puis du coup, être attentifs pour intervenir si besoin, ou là, juste au moment de la TR. D'accord ? Donc, on va construire le rôle de pareur en même temps. Et la multiplication des rôles va permettre aux porteurs, progressivement, de pouvoir gérer l'ensemble des actions qu'il a à réaliser. Parce qu'au départ, ce n'est pas évident. Donc, au départ, sur cet exemple-là, trois actions, je plie mes jambes, je pousse mes fesses en arrière et je me penche. D'accord ? Et finalement, le renversement, il est considérablement aidé par les aides. que ce soit par rapport au travail du porteur, mais aussi par rapport aux appréhensions et aux compétences du voltigeur. Okay? Là, à aucun moment, j'ai besoin d'avoir des élèves qui savent faire une roulade avant, qui savent faire un ATR. Ils sont en permanence soutenus, ils sont renversés, on les met en mouvement. Et on va construire, grâce à ces figures-là, ces postures de renversement. Petit à petit, vont construire leurs appuis, leurs repères sur leurs mains, leurs repères de gainage en position renversée, et ainsi de suite. J'ai un deuxième exemple sur des figures statiques. Pareil, c'est un duo. Donc, toujours pareil pour vous montrer les différentes étapes dans la progressivité, dans l'apprentissage des figures. Donc, c'est un duo en compensation de masse qu'on va voir là. Ça, c'est le duo qui doit être capable de réaliser. C'est des terminales, ça. Et donc, pareil, pour l'apprendre, on a différentes étapes et on va démarrer à 4. On va mettre un porteur au sol en soutien et une aide à la montée. Le porteur au sol en soutien évite les chutes arrière. Et du coup, le porteur va construire les actions qu'il a à réaliser pour monter la figure. En deuxième étape, on va faire le montage de la figure avec le porteur au sol, mais ensuite, une fois qu'on a atteint le point de compensation de masse, il va se retirer pour que le porteur sente le travail de gestion d'équilibre qu'il a à faire. La troisième étape, on ne garde que l'aide à la montée. Et ensuite, en quatrième étape, on enlève l'aide. Ou pas, suivant le niveau de vos élèves, ce que vous attendez d'eux, ainsi de suite. Alors, donc ici, cette progressivité, elle est vraiment très importante. D'accord ? Ici, dans mon cycle, donc je vous dis, j'entre par des figures dynamiques, ensuite progressivement, j'intègre des figures statiques. Pour travailler les figures statiques, toujours pareil. Je vais choisir des figures au départ que je vais leur imposer pour travailler des postures, pour travailler par exemple le duo en compensation de masse, ce travail-là, je travaille sur cette figure-là, je travaille sur les empilements, donc tout ce qui est, je monte sur les épaules, je fais monter mon voltigeur sur mes épaules, parce que pour moi ce sont deux postures qui sont très importantes dans beaucoup de figures statiques qu'on va retrouver, et à partir de là, ils vont apprendre, en tant que porteur, à hisser le voltigeur ou à le mettre sur ses épaules, à le faire monter sur ses épaules et à le faire descendre, ainsi de suite. Et du coup, grâce à ces techniques-là, ils vont pouvoir après travailler à créer des figures ou à, si on leur donne un code avec des figures différentes où ils vont retrouver ces postures-là, ils sauront comment on monte et comment on démonte la figure statique. Ok ? Donc, avant de pouvoir inventer des figures, il faut qu'il y ait un minimum de bagages techniques qui leur permettent de pouvoir travailler en toute sécurité. Je ne crois pas qu'on puisse décemment, un bon père de famille, commencer un cycle d'acrosport et leur dire « Allez, c'est parti, inventez-moi des figures. » Même en donnant des critères et tout ça, il faut d'abord qu'on soit sûr, c'est comme si en escalade on leur disait bah, « Allez-y, c'est parti, hop, un assureur, un grimpeur, on y va, c'est parti. » « Ah, vous ne savez pas assurer, c'est gênant. » Voilà, c'est la même idée. Il faut qu'il y ait un minimum de bagages, d'accord, pour pouvoir travailler en toute sécurité. Donc ici, voilà, ce travail sur ces figures dynamiques, si je récapitule, gros travail en sécurité active avec une formation du parrain. D'accord ? Même quand je fais des cycles de gym, il m'arrive régulièrement de passer par des figures dynamiques. Je ne sais pas, moi je fais un travail sur le saut de main. Ben, on va apprendre aux élèves à se renverser, déjà à vivre le renversement. Et du coup, dans ce cadre-là, on va apprendre aux élèves à parer. Et du coup, quand on va après s'orienter vers une activité gym, où l'enjeu, c'est que l'élève va devoir faire son saut de main seul, évidemment, il y a tout le travail de l'anticipation des épaules, ainsi de suite. Mais on a des pareurs qui ont une formation, qui savent agir. D'accord ? Alors, ça ne veut pas dire que tout est magique et que nos élèves font tout le temps tout ce qu'on leur dit. Hein. Je ne vends pas du rêve, hein. J'ai les mêmes élèves que vous. Hein. Ensuite, donc toujours dans cette idée là, d'éducation à la sécurité, ce travail de dynamique me sert aussi beaucoup dans mon travail de statique. C'est-à-dire que grâce aux figures dynamiques qu'on aura fait, comme je vous l'ai dit, vont apprendre les élèves à renverser un voltigeur en ATR, à le relever d'une position de l'ATR à debout, à générer de la rotation, ainsi de suite. Et du coup, ils vont se servir de ces techniques-là dans les montages et les démontages des figures statiques. Je vais vous montrer des exemples après. À la fois, ça leur permet de se rendre compte que grâce au groupe, ils vont pouvoir encore plus valoriser leur figure statique en rajoutant encore de l'acrobatie. Et en plus, ça peut paraître paradoxal, mais en plus on ajoute de la sécurité. Parce que là, les élèves sont vraiment investis dans ce qu'ils font. D'accord ? T'es prêt, c'est magique. Je voyais les regards qui se levaient. Donc, des exemples d'utilisation de figures dynamiques simples qu'on a vu tout à l'heure dans les montages. Regardez à gauche. Donc ce ne sont que des figures statiques. Donc il y a les 3 secondes d'immobilisation. Par contre, les montages et démontages. Ça ajoute de l'acrobatie et ça sécurise les montages et démontages. Je vous rappelle, si vous ne l'aviez pas vu, qu'on est sur une activité gymnique, acrobatique, collective. Donc là, on voit vraiment l'aspect collectif et acrobatique de l'activité. Il y a des duos, des trios, des quatuors. Alors après, effectivement, sur des groupes de 4-5, forcément, en termes de montage et de démontage acrobatique collectif, sur un duo, il y a plus de possibilités que sur un quatuor. Parce que sur un quatuor, s'ils sont que 4, c'est plus compliqué puisqu'il y a moins d'élèves pour pouvoir participer au montage et au démontage. S'ils sont 5, il n'y en a qu'un. D'accord ? Donc, moi, dans mes cycles, en ce qui concerne la qualité des montages et des démontages, je vais évidemment être moins exigeante sur des quatuors, puisqu'il y a moins de possibilités offertes. D'accord ? Je crois que tu avais une question dans ton regard. Donc, grosse partie du cycle, la moitié et les deux tiers, on va être sur tout ce travail-là. Alors, ça ne veut pas dire que jusqu'à là, on n'a pas fait travailler l'enchaînement des figures. Hein. À la fin de chaque cours, ou au début, ça dépend, on les habitue à passer devant les autres et on leur demande sur les quelques figures qu'on a appris de les enchaîner dans l'ordre qu'ils veulent, avec des exigences de rôle, ainsi de suite. Donc, l'enchaînement reste un fil conducteur du cycle quand même. Maintenant, il va falloir construire cet enchaînement-là pour présenter les figures, puisqu'on a dit que l'enjeu du cycle d'acrosport, eh bien, c'était de présenter des figures statiques et dynamiques dans le cadre d'un enchaînement. Ici, revenons sur tout ce qui est donc perspective acrobatique, perspective artistique. Vous l'avez compris, nous on est plutôt sur une perspective acrobatique qui est la logique de l'activité de référence. D'accord ? La gymnastique acrobatique, tout à l'heure, s'il y en a qui n'en ont jamais vu, j'en ai des vidéos sur mon ordinateur, si vous regardez un enchaînement de gymnastique acrobatique, vous verrez clairement, c'est une activité gymnique. L'enjeu pour les gymnastes, c'est de réaliser et de maîtriser les figures les plus difficiles possibles. L'enchaînement n'est que l'illustration de la maîtrise des figures, d'accord, qui vont être jugées par des juges, d'accord, pour avoir la meilleure note possible et gagner ses concurrents. Le gymnaste, quand il va sur le praticable, son but, c'est pas de transmettre un message à des spectateurs pour générer des émotions. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotions qui sont générées pour des spectateurs qui regardent un enchaînement d'acrosport. Mais ce n'est pas ce que recherche le gymnaste. D'accord ? Oui, à haut niveau, dans la notation, il y a une partie de la note qui est appelée note artistique, qui va être sur toute l'utilisation de l'espace, le rapport avec la musique, les postures, les ports de tête, l'expressivité, ce qu'ils appellent. Mais l'enjeu, c'est pas de choisir un thème, de raconter une histoire, d'accord, pour générer des émotions sur un public. L'enjeu, c'est de réaliser les figures les plus difficiles possibles et de les mettre en scène pour avoir la meilleure note possible et battre ses concurrents. C'est l'activité culturelle de référence de l'acrosport. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire autre chose. En tant que formateur FPC, on a des réunions de formateurs et lorsqu'ils nous présentent la nouvelle réforme, ils nous disent en ces termes que aujourd'hui, les activités ne sont plus qu'un prétexte au développement de compétences, des compétences du socle commun. Donc, en fonction des compétences que vous voulez développer chez vos élèves, vous pouvez prendre un bout d'acrosport, un bout de danse, et puis proposer quelque chose pour développer les compétences que vous avez choisi de développer. C'est absolument pas un problème. Il faut juste savoir ce qu'on fait, et savoir que ce qu'on fait, ce n'est pas de la gymnastique acrobatique. On a pris ce qu'on avait envie de prendre dans les activités, pourquoi pas, mais ce n'est pas de la gymnastique acrobatique. Si on fait du cirque, on fait pas de la gymnastique, on fait pas de l'acrosport. Et pourtant, en acrosport, en cirque, eh ben on va utiliser des techniques d'acrobatie de l'acrosport. Ici, quand on fait du handball, on court sur le terrain, mais on fait pas de l'athlétisme. Donc c'est pas parce qu'en handball on utilise de la course que la logique de l'activité est la même. D'accord ? Du coup, ici, je pense que cette perspective-là, elle est liée à l'enjeu de l'enchaînement. Il faut se poser la question, parfois, pourquoi on fait les choses ? Des fois, on les fait machinalement, parce qu'on a été formé pour ça, ou parce que, dans l'activité de référence, c'est un enchaînement, donc on fait un enchaînement. Mais est-ce que, pour nous, en scolaire, est-ce que ça a une utilité ? Est-ce qu'il y a un enjeu derrière ? Est-ce qu'ils ont des choses à apprendre là-dessus ? Pourquoi est-ce qu'on leur fait présenter des figures sous forme d'enchaînement ? Et pourquoi donc on leur fait faire une chorégraphie ? D'accord ? Oui, il y a un enjeu. Je vous l'ai dit, l'enjeu c'est que pour obtenir un enchaînement qui va être fluide, il va falloir maîtriser les figures. D'accord ? Une chorégraphie, c'est quoi ? Pourquoi est-ce qu'on fait cette chorégraphie-là ? littéralement, chorégraphie, c'est l'écriture du mouvement. D'accord ? Étymologiquement parlant, c'est dur ça. La chorégraphie, c'est l'écriture du mouvement. D'accord ? Or, avec le temps, ce mot, cette notion, s'est enrichi d'une perspective esthétisante. D'accord ? C'est-à-dire que derrière chorégraphie, on voit beau. Donc, une chorégraphie, ça doit être beau. D'accord ? Ça renvoie à ça. Ici, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que le but de la chorégraphie, c'est pas de générer de la beauté. Le but de la chorégraphie, c'est d'organiser les déplacements, les placements des élèves dans l'espace et dans le temps, en fonction des rendez-vous que sont les montages et les démontages des figures. D'accord ? Pour générer de la fluidité dans l'enchaînement. Signe de maîtrise. Et c'est parce que l'enchaînement va être fluide et que les figures seront maîtrisées, alors qu'on trouvera ça beau. Donc on est sur une esthétique de conséquence. C'est pas le but recherché, par contre. Si tous les rendez-vous sont bien organisés, tout s'enchaîne avec fluidité, on a l'impression que c'est facile et c'est ça qui rend les choses belles. Ok ? Mais ce n'est pas le but recherché. D'accord ? Donc, notre chorégraphie, elle est fonctionnelle. Qui fait quoi, où et comment et quand ? D'accord ? Pour générer de la fluidité. Je réfléchis ensuite. On vous suit ensuite.
Je sais pas, ça fait combien de temps ? Il te reste, on va dire, 5 minutes.
5 minutes. Ouais. Conclusion, donc. C'est là que le jury vous dit qu'il faut conclure, madame.
Après, je te relancerai sur une question.
Ah oui, mais oui, j'espère plein. J'espère plein, parce que c'est pas possible de tout dire. Donc, ici, sur la structure du cycle, si je résume, on a un apprentissage de figure qui est l'occasion d'apprendre des postures, des prises, des actions pour apprendre à, en tant que porteur, manipuler son voltigeur, en tant que voltigeur, être manipulable, et en tant qu'aide ou pareur, assurer la sécurité. D'accord ? Ça, c'est vraiment le cœur de l'activité. Ok ? Après, en fonction du niveau de vos élèves, du cycle auquel ils sont, des exigences institutionnelles ou pas, vous allez après choisir le temps que vous allez passer sur vos figures et le temps que vous allez laisser pour la présentation d'enchaînement. Selon vos priorités, je sais pas moi, c'est un deuxième cycle, ils sont censés maîtriser tel et tel aspect. Sur un deuxième cycle, on va plutôt travailler sur l'enchaînement, la fluidité de l'enchaînement, tout ça. Après, c'est à vous de réguler. De la même manière qu'en fonction des contenus que vous voulez apporter, ben, vous allez choisir les figures que vous allez faire travailler. Ok ? Allez, question. Ça me prend pas
ouais.
Plein de choses.
Peut-être une première question dans ce que tu proposes. Donc, si j'ai bien compris, tu rentres par la dynamique,
oui,
pour aller vers la statique.
Je rentre par la dynamique.
C'est-à-dire que on aurait pu penser qu'il y avait une progressivité en disant qu'on va faire le statique parce que c'est plus facile et puis aller vers le dynamique. Toi, tu inverses le processus.
Je pense pas qu'il y ait une hiérarchie en termes de difficulté entre statique et dynamique. Je pense qu'il y a des figures dynamiques qui sont plus faciles que certaines figures statiques et inversement. D'accord ? Si je rentre par le dynamique, c'est parce que c'est dans une perspective sécuritaire. C'est parce que grâce au dynamique, j'arrive à impliquer tous les élèves du groupe dans le travail et je construis des pareurs qui vont du coup prendre conscience aussi de leurs responsabilités dans la sécurisation du voltigeur. Et cette prise de conscience-là et cette attention-là et ces capacités de contrôle sur le voltigeur, ils les construisent dans le dynamique et ils vont le réinvestir dans le statique. Je trouve que en ce que le dynamique rend nécessaire l'intervention des aides et des pareurs, du coup, ils les construisent les compétences. En statique, si vous voyez, on reprend l'exemple des aides qu'on a mis dans les étapes de progressivité, elles interviennent indirectement, celle qui est au sol, elle n'intervient pas directement sur le voltigeur pour assurer la sécurité. Elle est là juste pour éviter les chutes au sol, arrière. Ok ? En étant allongée sur le dos, les pieds avec le porteur assis sur lui, elle n'a rien appris hein, en termes d'aide et de sécurité. Ok ? Celui qui est derrière, c'est autre chose. Mais dans le dynamique, ils vont apprendre des prises pour prendre en charge le voltigeur et pour pouvoir agir efficacement sur lui. Donc c'est vraiment dans cette perspective-là que moi je choisis cet endroit.
D'accord. Ça veut dire donc du coup que pour toi, finalement, qu'est-ce que tu fais la dimension acrobatique ? Parce que tu nous as dit, l'acrosport, c'est ce qui est constitutif, c'est quand même cette dimension acrobatique. Oui. Pourtant, là, tu dis, je rentre pour le sécuritaire. Donc, ça veut dire que... Comment tu gères cette tension-là ?
Parce qu'il suffirait
de réduire la dimension acrobatique, la faire aller régler.
Puisque l'enjeu de l'activité, c'est de faire de l'acrobatie, et c'est aussi une éducation à la sécurité. C'est les deux choses. Si... il n'y a pas d'acrobatie et qu'il n'y a pas de problème de sécurité, il n'y a pas d'éducation à la sécurité. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est la maîtrise du risque. Si, s'il n'y a pas de risque, comment on peut faire prendre conscience aux élèves du rôle qu'ils ont à jouer pour assurer la sécurité de leurs camarades ? Quand je dis s'il n'y a pas de risque, s'il n'y a pas un enjeu acrobatique. Ça répond à ta question ?
Oui, en partie. Et après, j'ai une deuxième question dans ce que tu dis. Je me dis, bon, l'acrosport, c'est finalement, tu insistes sur une dimension de l'acrosport qui serait pilotée par la dimension acrobatique.
Ouais.
Et puis, d'un coup, tu nous dis, mais bon, si vous ne voulez pas faire ça, et alors piocher un petit peu de la dimension artistique, finalement, on peut. Donc,
c'est pas moi qui donne les autorisations.
J'avais te dire, quoi, dans le PS que tu proposes, Qu'est-ce que parce que finalement moi je me dis quel est l'enjeu alors finalement pour mes élèves de cette étude de l'acrosport si tu me dis finalement tu peux aller choper un peu de la danse
je le fais pas. Ce que je veux dire c'est que souvent quand je rencontre des stagiaires en stage, ils me disent ah mais est-ce que je peux faire ça? Mais tu fais ce que tu veux, la question c'est pourquoi tu le fais. Moi je rentre comme ça dans l'activité, parce que, un, c'est la référence culturelle de l'activité, et si je veux faire pratiquer cette activité-là à mes élèves, c'est dans sa richesse, et si je veux faire pratiquer de la danse à mes élèves, parce qu'il y a cette richesse-là, et que je pense que, à vouloir tout mélanger, en fait, on fait rien. C'est-à-dire que, si dans un cycle et dans le temps qui nous est imparti en EPS, ça prend beaucoup de temps d'apprendre aux élèves à gérer de l'acrobatie collective en groupe comme ça. Ça prend beaucoup de temps. De la même manière que ça prend beaucoup de temps d'arriver à engager les élèves dans une démarche de création en danse. Moi, je trouve que dans le temps qui nous est imparti, si on essaye de faire du cirque, du coup, et quand on regarde nos cycles de cirque, il y a de l'acrobatie, mais à un niveau extrêmement faible. Et il y a une démarche, un projet artistique qui aussi en termes de niveau d'exigence pas forcément très développé, ce n'est que mon point de vue, hein, parce que c'est difficile de tout faire avec nos peu d'heures de PS. Donc pour moi, la richesse de l'acrosport et donc de la gymnastique acrobatique, c'est l'acrobatie collective. C'est tous les enjeux sécuritaires, c'est se renverser. C'est leur faire vivre des émotions, c'est tous les nouveaux repères gymniques qu'il y a à construire, et ça prend beaucoup de temps, ça.
D'accord. Dernière question, parce que peut-être on va ouvrir le débat à la salle, c'est est-ce que tu portes l'idée de tous voltigeurs et tout s'acrobat, c'est-à-dire tout se renverser.
Alors,
est-ce que pour toi, c'est vraiment une exigence que dans ta classe, tout se passe par ces postes-là?
Alors, oui.
Ces rôles-là plutôt.
C'est une exigence qu'ils vivent tous ces rôles-là dans le cycle. Par contre, ce n'est pas une exigence forcément qu'ils soient évalués sur tous les rôles. Il me paraît absolument indispensable, même si c'est dur sur des figures de niveaux différents, de faire vivre à chaque élève chaque rôle, ne serait-ce que pour prendre conscience de ce que l'autre vit. Si tu n'as jamais été porteur et que tu n'es que voltigeur, comment tu sais ce que ça fait d'avoir des pieds en plein milieu des cuisses qui font mal? Si tu n'es que porteur et que tu renverses ton voltigeur et qu'il a peur, comment tu peux savoir ce qu'il vit et comprendre ce qu'il vit et du coup être plus attentif à lui si tu ne sais pas ce qu'il vit? Au-delà du fait que ben, on est aussi en EPS et on est aussi là pour faire vivre à nos élèves une variété d'expériences. Après, ben, en fonction de leur niveau, de leur morphologie, ils ne feront pas tout, mais ils auront vécu les rôles de porteur et de voltigeur. Peut-être pas dans toutes les figures, mais au moins dans les plus simples.
Du coup, excuse-moi, tu as donc des figures, on va dire, pour des élèves qui sont en surpoids, tu as donc quand même des figures particulières pour qu'ils vivent justement
La portée. Là, la figure qu'on a vue là, avec le porteur là, qu'il prend sur le dos, ou un porteur au sol allongé et qu'il l'envoie en renversement, encore une fois, sauf cas extraordinaire où on a 29 élèves qui font 40 kg et un élève qui fait 80 kg, là ça devient compliqué. Mais à ce jour, j'ai jamais été confrontée à un élève qui était en surpoids et que j'ai pas réussi, ne serait-ce qu'à renverser sur une figure dynamique très simple, un roulat d'avant porté par deux autres élèves, plus un porteur. Donc, ils le vivent. Alors oui, peut-être que cet élève-là, il n'arrivera jamais à se renverser en ATR, mais ce n'est pas grave. À son niveau, il aura vécu une roulade avant, ce qu'il est incapable de faire tout seul. Si, on met un plan incliné. Ouais. C'est quand même vachement plus sympa d'être aidé et soutenu par ses partenaires que d'avoir un pauvre plan incliné. Alors, je fais pareil quand je fais gym. Je travaille aussi avec des plans inclinés. Et si l'enjeu, c'est d'apprendre la roulade avant, à un moment donné, évidemment, on va passer dans le plan incliné parce qu'il va falloir qu'il apprenne à pousser sur ses jambes, ainsi de suite. Mais avant ça, si le problème qu'il a, parce qu'on part de celui qui est en surpoids, mais il y a aussi celui qui n'est pas en surpoids et qui est complètement flippé de se renverser et qui se cabre comme ça, tête en arrière, dos creusé, parce qu'il a trop peur de rouler. Celui-là, le plan incliné, ok, s'il a peur de se renverser, il ne va pas y aller non plus sur le plan incliné. Par contre, s'il est soutenu, qu'il y a un élève qui vient lui prendre la tête, lui renverser, il y a tout un travail de mise en confiance sur lequel on peut travailler. Donc, sur les figures les plus simples, la toute première figure, alors de la première vidéo, il y a un élève qui est en position de gainage en appui sur les mains et un porteur qui vient prendre les deux pieds et qui lui fait faire une roulade avant. C'est une figure dynamique. On a un porteur qui génère du mouvement et de l'acrobatie chez un voltigeur. Ils sont tous capables, et puis s'il y a un porteur, ça ne suffit pas, ben on met deux porteurs. J'ai pas encore vu d'élèves, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, hein. Je n'ai pas réponse à tout. Jusqu'à présent, j'ai toujours vu tous les élèves se renverser, ne serait-ce qu'en roulade avant. Et même à force, j'ai vu des élèves qui étaient vraiment pas toniques, en surcharge, construire un renversement. Alors, pas tenu et tout, mais dans ces figures-là, à la fin du cycle, des élèves auxquels j'aurais jamais pensé qu'ils arriveraient à monter, à tenir la position renversée, à se renverser. Il y a de réelles transformations grâce au groupe.
Vas-y. Tu commences tout, est-ce que dans ton collège, la cité, vous commencez tous en 6e, parce que visiblement les enfants jeunes démarrent. Nous, par exemple, on commence en 4e et 3e. Et c'est pas pareil.
Et non, parce que les corps se sont transformés, tout ça. En même temps, alors, pour... alors, nous, on a eu fait... on a eu fait 6e gym, 5e, 4e accro sport. Après, on a trampoline aussi, bref. Du coup, il avait déjà vécu. Après, honnêtement, même si on fait un cycle en 6e et qu'on les revoit 2 ans après et qu'ils ont pris 20 cm et 15 kg, de toute façon, ils ont perdu tous leurs repères, hein. Faut tout reconstruire. Et ce dont je discutais, c'est que de la 6e à la terminale, je commence tous mes cycles en reprenant mes figures dynamiques de base. Et l'âge et l'expérience n'est pas garant de la maîtrise. J'ai des élèves de terminale qui arrivent à faire des figures beaucoup moins difficiles que des petits sixièmes tout toniques, tout légers, avec un rapport poids-puissance extraordinaire. Je ne sais pas si le fait de faire sixième, cinquième accro-sport et quatrième, troisième autre chose... Est-ce que pour autant, quand on va les retrouver au lycée, quand ils vont être confrontés à un cycle d'acrosport, est-ce que pour autant, ce qu'ils auront fait en 6e, 5e, avant la transformation de leur corps, voilà, après, peut-être en termes de repères affectifs, de repères dans l'espace, ça aurait été peut-être plus facile. Oui, je trouve que c'est plus facile avec des élèves de 6e, parce qu'ils sont moins contraints par leur corps. Ils sont tout légers, il y a moins de déséquilibre de morphologie, même s'il y en a, et ils arrivent super bien.
Sylvaine ?
Moi, je voulais revenir sur ta question. La question que tu as posée, est-ce que tu imposes à tous tes élèves de passer par le rôle de voltigeur, témoigne d'une conception avec laquelle, par exemple, Claude Berthelot ne serait pas tout à fait d'accord, je pense qu'il en a même. Parce que elle laisse penser que le rôle de voltigeur est plus intéressant que le rôle de porteur. Et bien justement, non. La définition que nous propose Claude dans le contre-pied, c'est que c'est une activité collégiale de prise de risque, de maîtrise du risque. Collégiale qui est plus intéressant même que collectif, ça veut dire qu'il y a une interdépendance fondamentale dans l'activité des rôles, qu'a développé Emmanuel constamment dans son exposé. Et finalement, un voltigeur, il ne prend jamais d'impulsion. Ça n'est jamais lui qui déclenche l'action.
En square.
Qui permet, oui, qui permet ou la rotation, ou. Bon, alors, il déclenche quand même le renversement.
Oui, voilà.
Bon. Mais même à haut niveau, on voit des porteurs qui transmettent l'impulsion voltigeur. Par exemple, quand ils lancent pour faire double salto, ben c'est le voltigeur pousse un peu, mais c'est quand même des porteurs qui... Donc, autrement dit, l'idée qu'ils développaient, c'est que c'est le rôle de porteur qui, pour une fois, est beaucoup plus à valoriser. Disons qu'il est plus essentiel que le voltigeur. Alors que nous, quand on regarde, t'as raison, quand on regarde la vidéo, franchement,
t'as
toujours le
voltigeur.
Et
c'est
ça qui nous intéresse.
Et d'ailleurs,
le porteur, c'est un rôle déterminant qu'il faut valoriser oui. En accrosport.
Oui. Et ce qui est très intéressant là, c'est que justement, pour une fois, nos élèves qui ne sont pas forcément valorisés dans les autres activités sportives, et ben là, grâce à eux, ils arrivent à faire des figures plus complexes, ben parce que leur corpulence peut être un atout dans ce rôle-là. Donc ça change un peu la donne aussi, c'est pas mal.
Moi j'ai des questions depuis ta salle, je suis stagiaire.
Très bien.
Mais au point de vue des pareurs, tu peux utiliser le début des aides, tu utilises le pareur, tu laisses toujours un pareur, quel que soit le niveau et la maîtrise où tu peux retirer
alors,
du sang qui est.
Voilà, c'est-à-dire qu'après, une fois que, par exemple, pour l'épreuve de bac, j'ai terminé donc demain d'ailleurs. Pour l'épreuve de bac, un duo dynamique est un duo, donc il n'est fait qu'à deux. Donc ils doivent dans le cycle être capables de le maîtriser sans l'aide des pareurs. Ils doivent l'avoir suffisamment maîtrisé pour ne plus avoir besoin des pareurs parce qu'ils savent que ils vont la faire et ils vont la réussir. Et c'est une des choses que je dis beaucoup aux élèves à qui qu'il faut constamment stimuler hein, pour qu'ils travaillent, parce qu'on a tous les mêmes. Enfin non, on n'a pas tous les mêmes, mais quand même. Il y a deux étapes, je leur dis souvent dans l'apprentissage des figures. La première, c'est comprendre toutes les actions qu'on a réalisées, quels que soient les rôles, et réussir à les mettre en œuvre. Et là, la figure marche. Mais il y a une deuxième étape qu'ils zappent bien volontiers, c'est la répétition. Pour maîtriser la figure et être capable de la faire à chaque instant, bien et en toute sécurité, il faut la répéter 10 fois, 15 fois, 20 fois, 100 fois, bien. Et quand ils l'ont répété 10 fois, 20 fois, 25 fois avec les pareurs à côté et que le pareur il n'a pas eu besoin d'intervenir, là, ok, on se permet de les enlever.
Voilà. Et une question, c'était, parce que moi je pose constamment, les groupes, est-ce que tu as remarqué un niveau d'efficacité plus important si tu fais des groupes affinitaires ou
Alors, moi je rentre exclusivement avec des groupes affinitaires. Parce qu'il y a un rapport à la confiance à l'autre qui me paraît, toujours pareil, hein, vraiment important pour construire ça. Après, c'est vite dit, hein, affinitaire. Il y a ceux qui se mettent par affinité, puis il y a ceux qui restent. C'est toujours pareil hein, dans nos classes. D'accord ? Donc, affinitaire, oui, mais ne soyons pas naïfs. Voilà, il y a ceux qui ont envie de travailler ensemble. Après, ça n'empêche que je les conseille quand même, et je leur dis attention, quand vous allez construire vos groupes, puisque au départ, quand on travaille sur l'apprentissage des figures, même quand on fait des mini-enchaînements, ils sont pas nécessairement dans leur groupe définitif. D'accord ? Après un premier temps, où là, ils ont travaillé parfois avec des élèves différents au gré des absences des uns des autres, parce qu'il y a ça aussi à gérer, ils construisent le groupe définitif avec lequel ils vont choisir les figures qu'ils vont mettre dans l'enchaînement et présenter l'enchaînement. À ce moment-là, je leur dis, une fois qu'ils ont vécu les choses, attention, s'il y a trois poids plumes et un grand costaud, ça ne sera pas forcément la configuration la plus facile. Bon, après, j'ai envie de dire, ils y arrivent, hein, à avoir un peu plus costaud dans le groupe, ça peut permettre aussi de valoriser sur des figures qui vont réussir à faire parce que justement il y a un écœur de morphologie. Si vous avez la curiosité d'aller voir des vidéos, on en trouve sur YouTube des Coupes du Monde d'acrosport, il y a quand même un écart de morphologie important hein, entre les porteurs et les montigeurs. Alors, c'est réglementé, d'accord, mais évidemment ça facilite les choses et ça c'est aussi un des aspects qu'on a à gérer ces écarts de morphologie-là, parce qu'il y a plein de moments où ils doivent s'adapter aux morphologies des uns et des autres. Et c'est bien aussi de leur faire prendre conscience, on n'est pas tous pareils, mais c'est pas grave, il y a des solutions pour que ça marche. Et bien oui, après, dans certaines situations, cette configuration-là, elle va être plus facile, parce que toi, t'es plus légère que moi. Par contre, dans cette configuration-là, c'est plus compliqué. Il y a un grand, un petit, on doit faire une figure où les deux porteurs sont au même niveau. Le plus grand, il va falloir qu'il compense. Donc, tout ça, ça s'apprend et ça se gère.
Sur le plan sécuritaire, sur les figures statiques, où le porteur est à quatre pattes, qu'est-ce que tu en penses ?
Je ne fais pas de quatre pattes.
Je fais pas de quatre pattes.
Moi, je ne fais pas de quatre pattes. Alors, oui, d'abord parce que il voit rien de ce qui se passe, donc on lui tombe dessus, il n'en sait rien. Ensuite, il y a la question des appuis sur son dos, voilà. Et puis surtout, quand on dit que dans cette activité-là, le rôle majeur, et c'est ce que je veux leur faire comprendre, c'est le rôle de porteur, je ne vais pas leur dire, tiens, porteur, mets-toi à quatre pattes, on va te monter dessus. Ça va à l'encontre complet de ce que je veux leur apprendre, que le rôle de porteur et le rôle prieur, prioritaire, c'est lui qui décide, c'est lui qui initie l'action, c'est lui qui contrôle son voltigeur. À quatre pattes, il contrôle rien du tout, c'est juste une marche. Donc moi, je ne propose jamais des figures où il y a du quatre pattes. Après, il arrive qu'il en apparaisse. Si, par exemple, je fais un travail où, à partir de contraintes et de positions de porteur que je leur ai imposées, je leur demande de créer une figure statique, peut réapparaître le quatre pattes à un moment donné. Voilà. Je leur interdis pas, ça dépend comment ça se passe, ainsi de suite, mais je ne le propose jamais, parce que moi, ça ne m'intéresse pas.
Vas-y.
Oui,
Hélène.
Ouais,
j'avais une question, j'ai bien compris la logique de la présentation, mais en fait, très concrètement, tu parles au début de présentation de la figure dynamique, de les construire avec de la progressivité, et ensuite, tu as parlé justement de monter et démonter la force dynamique des figures statiques. Moi, concrètement, je me demande comment tu fais pour apporter ces figures statiques. Elles sont déjà acquises par les élèves. Les figures dynamiques, est-ce que tu présentes une figure que toute la classe fait? En fait, comment tu rapportes
ça? Alors. Figure dynamique, je présente une figure dynamique, démonstration, vidéo, et tout le monde fait la même chose. Et tout le monde passe à tous les rôles. D'accord ? Après, en fonction des groupes, système de validation, parce qu'ils ne vont pas tous au même rythme, ils n'ont pas tous les mêmes compétences, ceux qui avancent plus vite ou qui maîtrisent plus vite, soit il y a des niveaux dans la figure, soit ils ont atteint le dernier niveau de la figure, et je leur apporte une autre figure. Donc déjà, je différencie par rapport à ça, par rapport à des niveaux à l'intérieur d'une figure ou par rapport aux figures que je vais leur proposer.
Et tu présentes comment la figure, admettons, tu as deux groupes, il y en a qui ont un petit peu là, tu veux présenter une nouvelle.
Je vais au groupe qui m'a validé la figure, et pendant que les autres continuent à travailler leur figure, je leur montre soit une vidéo, soit je le fais avec elles. Où je leur explique, je leur donne les consignes, le porteur il est dans cette position, et alors après je détaille. Donc tu es dans cette position, hop là, donc tes mains sont là, on est pris ce poignet. Donc première action que tu vas faire, c'est ça. Voilà, ainsi de suite. Et on le fait, alors des fois je prends le rôle du porteur pour montrer à quoi ça ressemble. Démonstration avec l'élève. Je me mets souvent, enfin à minima je suis à l'aide ou à la parade. Parfois je suis porteur. Je suis jamais voltigeur parce qu'encore une fois, ça n'a pas d'intérêt. Parce que ce qui est important, le plus important et le plus difficile, c'est le travail du porteur. Voilà. Donc, soit globalement, j'explique, ils comprennent. Soit je vois que ils ont mal. Voilà, je réexplique, je dis non, là, t'as pas fait. Là. Ça ne marche pas. Hop, je leur montre, ils voient. Voilà. Il y a un compte-rendu de pratique sur l'acrosport que j'ai fait là, sur une figure dynamique un peu plus complexe avec un porteur au sol et qui fait réaliser un flip aux élèves, où je détaille bien toutes les étapes pour chaque figure. Donc soit toute la classe est assise et donc voilà, je place le porteur, je dis voilà, tu vas faire telle action, le voltigeur il fait ça, donc hop, on fait un début, voilà, donc, et je leur explique au fur et à mesure. Soit après, tu peux travailler avec des vidéos. Après, c'est bien qu'ils aient une vision en image de la figure, mais ça ne suffit pas. Il faut tout le contenu qui va avec. Et du coup, les figures statiques, je les aborde de la même manière que les dynamiques, c'est-à-dire que je vais choisir des figures statiques qu'on va travailler sous la même forme. Et après, une fois qu'ils ont... appris les techniques nécessaires, donc par exemple pour monter le voltigeur ici au niveau des hanches en pyramide en compensation de masse qu'on a vu là, je fais travailler les montées sur le dos. Après, soit je donne un code et j'estime qu'ils sont capables de réaliser les figures sans se mettre en danger, parce que quelle que soit la posture des autres voltigeurs ou des autres porteurs, il n'y a pas de complexité ni de mise en danger. Soit on travaille sur de la création de figures. Et donc, dans ce cas-là, je vais leur dire, vous allez me créer un trio avec un porteur qui est dans telle posture, avec un ou deux élèves renversés ou semi-renversés. Et en fonction de ça, si c'est un trio, on ne va peut-être pas en demander deux. En fonction de ça, ils vont chercher différentes postures. D'accord ? Et une fois qu'on a travaillé, qu'ils ont choisi des figures statiques, donc soit dans un code, soit parce qu'ils les ont créées, après, je vais faire un travail où je vais leur dire, voilà, là, vous la montez de manière basique, on va dire. Maintenant, j'aimerais que vous essayiez de vous servir du groupe pour rajouter de l'acrobatie et valoriser les montages et démontages. Vous avez appris, grâce à vos figures dynamiques, à renverser un voltigeur en ATR. Ben, s'il y a un voltigeur qui est en ATR dans le trio, servons-nous du groupe pour l'amener en ATR. Vous avez appris à redresser par une prise crochet, les mains comme ci, comme ça, à redresser un voltigeur qui est en ATR et à le mettre debout. Et ben, du coup, servez-vous-en pour les démontages de vos figures. D'accord ? Voilà. Ça répond à ta question ?
Ouais,
juste vas-y.
Très concrètement, comment tu fais ton échauffement ?
Alors, souvent je fais un échauffement général type gym classique. Après, je me sers souvent d'échauffement pour faire des petits exercices qui vont déjà amener les contenus dont je vais avoir besoin. Par exemple, la petite figure dynamique là qu'on a vue où il se met en gainage et l'autre le fait rouler. Ça, pour la majorité des élèves, c'est de l'ordre de l'échauffement. Donc, déjà, dans ce cadre-là, je vais travailler les postures de porteur, puisque nos élèves qui vont ramasser les pieds du voltigeur en gainage, ils vont faire comme ça. Donc, nous, on veut qu'ils fassent comme ça. Donc, tous ces petits exercices-là vont être là pour construire cette position de porteur qu'ils ont vraiment du mal à acquérir, hein. Déjà, cette position de squat sans que les genoux partent vers l'avant, où ils se fusillent les genoux, c'est pas évident. Le dos droit, c'est pas évident. Donc, je choisis plein de petits exercices pour leur faire travailler ça. Mais ça va du. On est un en position de squat, l'autre au niveau du bassin. Il y en a un qui pousse et l'autre qui retient. Donc, voilà, des petits jeux. Le jeu de la bouteille. Pour travailler sur l'alignement, accepter de se laisser aller. Je fais aussi des petits exercices de type on est un voltigeur debout, deux porteurs, prise poignée, et on va l'amener au sol tout droit. Il doit arriver sur le sol à plat. Donc des petits jeux pour apprendre déjà quelles sont les actions de gainage. Parce qu'on leur dit souvent allez, vas-y, gaine-toi. Ok, mais. Amusez-vous, moi je m'amuse à chacun de mes cycles, je leur dis, bon c'est quoi ce gainé ? Déjà, si j'arrive à voir ces contractés, ces muscles, c'est pas mal. Ok, qu'est-ce qu'on contracte comme muscle pour faire quoi comme action ? Ils ne savent pas, ils ne savent pas que ça c'est un quadriceps, ils ne savent pas à quoi il sert. Donc ils ne savent pas que telle action est générée par la contraction du muscle et que par définition, s'ils font cette action, ils vont contracter le muscle et donc être tonique. Il ne suffit pas de dire aux élèves « gaine-toi ». Il faut les mettre dans des situations où ils n'ont pas le choix pour réussir. Et là, ils ressentent des choses.
Alors, c'est quoi les trois premières figures dynamiques que tu proposes ?
Moi, les trois premières figures dynamiques que je propose, c'est deux duos, un trio. Un trio avec deux porteurs, un voltigeur. Les deux porteurs sont face à face, prise poignée. On vient mettre la main aux clavicules, la main au genou. Le voltigeur, quand on est au contact, se laisse déséquilibrer. Je l'amène à l'ATR. Donc, soit au départ, il y a un quatrième qui attrape, qui fait rouler. Soit on lâche, on attrape, on monte, on fait rouler. Première figure dynamique, donc renversement pareil. Hein. D'abord un roulat d'avant, puis un ATR roulat d'avant, ainsi de suite. Et ensuite, donc, le duo qu'on a vu là, c'est-à-dire avec le porteur debout, qu'il prend en charge sur le dos. Et la même chose, sauf qu'on a un porteur qui est allongé sur le dos et qui du coup va être prendre les poignets du voltigeur et mettre ses pieds en V au niveau de son bassin et l'amener vers la roulade avant, puis la terre roulade avant. Les trois premières que je fais, c'est celle-là. Après,
La deuxième, donc, ouais. tu dis qu'ils montaient bien et qu'ils aient les jambes tendues.
Pas nécessairement. Ça, parce que déjà, ils ne sont pas tous capables de le faire en termes de souplesse. En fait, ce qui est important, c'est que ce qu'ils ont tendance à faire, c'est je plie et après, je me penche. Sauf qu'ils n'ont pas pris en charge. Donc, il est encore au sol, le voltigeur. Ouais. Donc, s'il se penche, en plus... Pour le coup, des fois, il remonte au niveau du bassin. Donc, le voltigeur, il attire au niveau des bras. Et du coup, le voltigeur, il fait ça. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il maintienne son alignement.
Sauf que si il a un appui, on lui tire les bras vers l'avant et qu'on pousse là, bah, c'est pas facile pour lui d'être gainé. Donc ce qui est vraiment important, c'est que ici, je vais placer mon bassin sous le sien, et après, au moment où je pousse mes fesses en arrière, j'ai pas commencé à le renverser, je vais générer une action ici au milieu de ses cuisses, ses mains, et donc les miennes, je les garde là-haut, de manière à créer un levier qui va le prendre en charge. Et quand il est décollé, et bien équilibré sur mon dos, alors là je vais me pencher. Et quand je me penche, bah après ça dépend de la souplesse. L'important c'est que le bassin reste suffisamment haut pour générer du renversement. Si, une fois que je l'ai pris en charge, si je fais ça, bah, je ne l'ai pas renversé, il est resté à l'horizontale. Donc pour le renverser, il faut bien qu'à un moment donné, mes épaules et donc les siennes descendent et passent sous la ligne du bassin. Sinon, il n'y a pas de renversement.
Et je rajouterais que cette... Parce qu'en France, on utilise ces genres de choses. Et la question du basculement FSA, elle avait.
Ouais.
D'accord. Ça permet de porter le voltigeur avec son bassin,
et oui.
Pas avec ses cuisses. Donc si tu fais comme ça, tout d'un coup, j'ai des ailes, et forcément, tu vas t'étaler par terre, parce que l'eau est trop grande.
Yep.
Donc, le bassin doit rester très haut.
Il y a beaucoup
qui permet de porter avec le bassin et non pas avec les cuisses.
Il y a beaucoup de travail en fait, ce qui est assez agréable en fait en tant que prof quand on voit les élèves, c'est le moment où ils vous disent ah mais en fait c'est vachement facile.
Alors là il y a une question ici sur le site PSC Société. Vous allez pouvoir trouver tout un tas de documents qu'on a déposés au moment de la publication du contre-pied. Et donc, il y a des documents d'Emmanuel, évidemment, et des documents d'Isabelle Verrien, qui est sur l'Académie de Marseille. C'est un bien conservatoire à Marseille qui donne beaucoup de documents très intéressants aussi en acrosport. Je vous conseille d'aller sur Internet. Donc, si vous cliquez sur APSA, il faut descendre sur la colonne de droite. Acrosport est tout en bas. On ne sait pas pourquoi, pourtant c'est un A. Non, non, non. Voilà. Acrosport à droite. À droite, à droite, à droite.
On a classé par importance, activité.
À droite, là-bas.
Ah oui,
voilà. Non, sinon, on va changer avec la vie. Et donc, si vous allez sur des pratiques, Emmanuel, l'acrosport, le flip arrière passé au crime, voilà. Vous allez trouver, tu descends, il y a des vidéos. D'accord. Plein de vidéos. Voilà, donc franchement, il y a de quoi faire. Et puis, si tu retournes en arrière et que tu vas sur les documents d'Isabelle Berrien, voilà, on va donner l'exemple de ficher l'aile se renverser vers l'avant. Vers l'avant. Là, c'est intéressant parce que Emmanuel a développé l'idée que les savoirs en acrosport sont essentiellement liés aux différents rôles, et en particulier au rôle du porteur. Et plutôt que de donner des catalogues de figures où l'on voit bien souvent des figures statiques avec la position qui doit être maintenue, mais on ne sait rien du montage, on ne sait rien du démontage, ou dans les figures dynamiques, donc on ne sait rien de prise en particulier, et des actions des différents porteurs et aides. Là, ce sont des fiches qui sont intéressantes parce que, elles, d'abord, c'est des chronophotographies, et en plus, à chaque fois, par les dessins et par les consignes, les savoirs à maîtriser et à apprendre sont explicités. Donc, on évite ces fameuses fiches. C'était un des chevaux de bataille dans notre numéro de contre-pied. C'était de cesser de travailler avec des tableaux qui donnent des fiches où on ne sait rien, où tous les savoirs, tout ce qu'on doit apprendre est caché. Donc ça c'est terrible parce que comme tu disais, là, les élèves se cassent la figure, ils se tombent les uns sur les autres et on peut quand même avoir des accidents.
Ah bah bien sûr.
En acrosport, si on ne leur comprend pas ce qu'ils doivent, enfin si on leur montre, on n'explique pas ce qu'ils doivent faire.
Mais le gros problème, c'est ça, parce qu'on a des ramadans pour normal les livres, et c'est vrai que c'est très stressant.
Et, oui.
Et je n'ai jamais osé sur la dynamique. Je disais que de toute façon, je ne connaissais pas suffisamment les prises des actions.
Mmh. Ben oui, je comprends.
C'était un vrai problème. En fait, oui. La partie de la génération qui a appris la génération,
Moi, je l'ai appris dans le cadre de mon travail et en FPC. Hein. Je ne l'ai pas appris dans mes études. Hein.
Mais c'est vrai que c'est
un frein. Bah, bien sûr. Bah, bien sûr. Eh ben, complètement. Donc, après, voilà. Tu...
Vraiment, allez, franchement, sur Internet, Manuel, t'en avais posé aussi des choses.
Bah, je sais pas.
Quand on sait, tout ça, on le trouve. Bon, il y en a quand même sur le on n'a pas tout mis. Je vous invite à rentrer aussi, enfin, vous-même, si vous n'avez pas acheté le numéro de votre pied. Et puis après, encore une fois, sur Internet, on peut quand même. On a fait le numéro, tu as bien fait de sortir le numéro sur le numérique. Je trouve que c'est vraiment une activité qui montre que le numérique
est
quand même super intéressant. C'est bien de présenter les films, les chronophotos et filmer les films.
Et de toute façon, après, que ce soit pour entrer dans l'acrosport ou entrer dans le numérique, c'est toujours pareil, il faut commencer petit. Tu connais pas, tu prends une figure dynamique, tu trouves les contenus, machin, et puis tu fais que celle-là. Et puis au fur et à mesure des cycles que tu vas faire, tu vas rajouter un petit peu, puis au départ tu utilises ton numérique, juste tu filmes, et puis après du coup tu vas créer des e-books, et puis après faut y aller petit à petit, parce que c'est vrai que sinon ça fait peur, quoi.
Alors je vous propose qu'on arrête là. Alors exceptionnellement, comme vous avez bravé le froid, le Centre Paix Société a décidé d'offrir à chaque participant un numéro d'Acrosport et le dernier numéro numérique. Donc c'est soirée exceptionnelle. Hein. Voilà. Donc en plus de ça, on va vous offrir l'apéro. Et peut-être que dans la soirée, quoi, dans le moment de l'apéritif, vous aurez une dernière surprise. Vous verrez, on a fait venir un musicien des pays de l'Est. Et peut-être qu'il... si on le soudoie suffisamment, il sera d'accord pour nous jouer un peu de musique, pour rendre la soirée conviviale.
Si vous avez d'autres questions,
merci beaucoup à Emmanuel de ton intervention et de nous avoir cultivés sur l'activité. Merci à vous. Et puis maintenant.
Voilà. On a abandonné. Et puis, vous avez perdu le meilleur.
non, c'est très bien. Merci. Voilà, maintenant, la discussion est ouverte dans un temps moins formel. Et puis souffle, vous avez un coup à boire dehors. Merci.